Bonsoir Philippe Solers.
Bonsoir.
Discours parfait, vous le dites dans les pages qui ouvrent ce gros livre qui vient de paraître chez Gallimard. C'est un écrit hermétique grec du IVe siècle qui faisait partie d'une bibliothèque gnostique qui a été découverte en Égypte en 1945. Exhumer un texte ancien et le donner à lire, au fond, est-ce que ce discours parfait, c'est une parabole sur ce que nous devrions faire aujourd'hui pour résister à la morosité déprimante des temps?
Oh, vous savez, c'est le projet, quand même, il faut le prendre avec un certain humour. Discours parfait, qu'est-ce que c'est que ça? Qui ose publier un livre qui s'appelle Discours parfait? Vraiment, bon, il faut le prendre avec un peu d'humour. Mais en même temps, la situation me paraît tellement grave, tellement problématique, comme un changement d'époque, un changement d'air. Un changement vraiment de calendrier, presque, une mutation profonde, tellement profonde, que j'ai pensé à ces gens qui, au IVe siècle, avaient réuni leur bibliothèque gnostique, qui devait être, qui aurait été brûlée sans ça, qui aurait disparu sans ça, dont personne n'aurait tenu compte, ils ont enterré leurs manuscrits, comme ça, en Égypte. Bon. Et puis, alors, depuis ans, un jour, en remuant ça, on a découvert ça. Mais vous voyez, en 1945, par rapport au IVe siècle, c'était tout à coup une grande, grande longueur d'onde. Donc, après tout, je trouve que là, c'est un peu humoristique aussi, mais la situation est si grave, si problématique, si terrible, contrairement à tout ce qu'on peut dire et présenter comme substitution et spectacularisation. Je veux dire sur la pensée, sur la lecture, que après tout, je prends tous ces écrits et je les mets dans une boîte plombée, je les enterre dans le jardin des éditions Gallimard. Voilà, on verra bien.
Donc, Philippe Solers, le paradis, il n'est pas. Pas sur terre, il n'est pas au ciel, il est dans les livres au fond.
Non, il est sur terre à condition d'être là où ça se passe vraiment, c'est-à-dire dans la vie la plus intime, la plus profonde. Pour savoir écrire, il faut savoir lire, c'est déjà énorme. Qui sait lire encore
pour
aujourd'hui?
Pour savoir vivre, il faut savoir lire.
Pour savoir lire, il faut savoir vivre. Autrement dit, ça va très loin parce que. Écoutez, c'est extraordinaire. Si vous ne pouvez lire que ce que votre vie vous permet de lire, si vous vivez de façon raccordée, étroite, hexagonale, oublieuse, ignorante, ou de plus en plus résignée, ou de plus en plus asservie au présent actuel, uniquement à lui, c'est-à-dire en étant obligée, mettre au boulot dodo, ce n'est même plus la formule, c'est dodo partout, hein, c'est-à-dire une résignation, une force, une aliénation, mais dont le livre est plein de critiques sociales sur la société d'aujourd'hui. Il ne faudrait pas croire que Discours parfait, c'est comme ça, une balade dans la culture. C'est une violente attaque contre la servitude, n'oubliez pas volontaire, parce que tout le monde est résilié, voilà, de notre temps. Nous n'avons jamais assisté, notamment dans ce petit pays qui s'appelle la France, à une régression et à une servilité générale. Et c'est un livre, voyez, qui a l'air de rien, mais il va se perpétuer peut-être, on le retrouvera un jour, peut-être enterré. C'est un livre extraordinairement politique.
Mais d'où vient, à votre avis, Philippe Solers, cette situation que vous décrivez? Comme si, dans l'histoire de l'humanité, il n'y en avait jamais eu de telles.
Il y en a eu qui sont absolument comparables, mais pas avec cette intensité. Quand je dis qu'étant lycéen à Bordeaux, à l'âge de 12 ans, on m'emmenait au lycée voir la tour de Montaigne ou le château de Montesquieu. Quand je dis qu'à 12 ans, alors que j'étais assez attiré par des histoires de langage, j'ai été ébloui par de voir qu'un type s'était retiré dans sa tour et avait inscrit sur ses poutres, vous imaginez, des maximes grecques ou latines. On s'est gorgé sous le mur de Montaigne. Il est allé ensuite à Rome parce qu'il était révulsé par les innovations calviniennes. Il est allé vérifier si les livres à Rome étaient encore conservés. Et il avait l'impression que ça allait être vraiment une apocalypse, que on ne personne ne saurait plus le grec, le latin, c'est-à-dire les sources de la connaissance. Vous imaginez le grec et le latin aujourd'hui, où est-ce qu'on en est?
Bon, déjà, alors, la princesse de Clèves n'a pas la cote.
Il vaut mieux ne pas en parler. Donc, il y a eu des époques comme ça, une époque de mutation intense, ce qu'on appelle, qu'on affuble de nom, la Renaissance, la Réforme, la Contre-Réforme. La Contre-Réforme, ce n'est pas une Contre-Réforme, c'est une révolution aussi. Bon, l'histoire est falsifiée, on l'arrange parce que tout doit mener à la Révolution française doit mener automatiquement à la Révolution d'Octobre en Russie, puis la Révolution d'Octobre, enfin, bref, on n'en finirait plus, Staline, Hitler, pas. L'histoire est falsifiée. L'histoire, c'est quelque chose qui doit être ressenti de façon extraordinairement singulière, personnelle. Parce qu'autrement, on réussit des banalités scolaires, universitaires. L'histoire, c'est une question personnelle. Montaigne a fait de l'histoire une question personnelle. Voltaire a fait de l'histoire sa question personnelle. Et c'est de ça que peut jaillir une vérité. Parce qu'elle sera singulière, parce qu'elle sera absolument inattendue, et que malgré tout, quelqu'un aura osé vivre sa singularité historique. Voilà ce que, très modestement, j'ai cité des grands noms, oubliez-les.
Il ne faut pas les oublier.
Je suis un pauvre artisan de mon temps.
Oui,
de mon
on
temps,
vous connaît,
de mon
ça.
Temps lugubre, de mon, mais... temps, de mon temps illettré, de mon temps analphabète, de mon temps bavard.
Effectivement, dans ce livre, il y a ces incitations à lire, à relire, à découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas fait, Voltaire, Montaigne. Mais il y a aussi un livre qui occupe, on le sait, une grande place dans votre vie, c'est la Bible. Et vous avez consacré une critique fort élogieuse à la nouvelle traduction signée d'Henri Méchonic. On écoute, on lui donne la parole avant d'en parler nous-mêmes. Il explique... Comment il a abordé cette traduction ?
C'est pas la forme, c'est la force que je vise. Il y a le rythme, il y a la syntaxe et il y a la prosodie. La prosodie, c'est le continu sémantique. La visée, l'objectif, c'est ce que font les mots. C'est pas ce qu'ils disent. Et ce qu'ils font porte ce qu'ils disent. Mais si on ne vise que ce qu'ils disent... Je dirais qu'on perd tout. Si vous n'avez que le sens des mots, vous avez du cadavre. C'est comme l'âme d'un côté et le corps de l'autre. C'est un corps mort et une âme morte.
Philippe Soler, ce livre, la Bible, on s'étripe depuis des siècles en son nom. Et pourtant, c'est une lecture qui incite à vivre la vie avec sa propre cervelle.
Écoutez, je crois être un des très rares écrivains français qui a lu la Bible très tôt et vraiment avec attention. Vous savez, on a à un moment donné, je ne sais plus qui a eu cette initiative assez bizarre de faire traduire la Bible par des écrivains, retraduire la Bible par des écrivains. Le résultat a été catastrophique. J'avais dans ma famille des livres, des Bibles reliées du XVIIIe siècle, donc Calmet. Ce qui m'a frappé le plus très jeune, ce sont les illustrations. J'ai vécu absolument à l'intérieur de cet écrit qui pouvait se développer dans une sorte de grandeur extraordinaire. J'entends la Bible. C'est-à-dire que, comme je suis catholique d'ailleurs, de naissance, ce qui n'est pas forcément une malédiction, comme je veux y insister beaucoup, parce que la question historique est là aujourd'hui même, sur cette question-là. Donc, la Bible, vous savez, ça m'a paru tout à fait nécessaire. Et alors que les écrivains anglo-saxons, surtout américains, Faulkner par exemple ou d'autres, ont vécu avec la Bible, alors que les protestants, les catholiques ont occulté la Bible. Alors c'était intéressant parce que moi j'ai le goût de ce qui est interdit. C'est presque spontané chez moi. Je vais regarder là où on cache les choses. Heureusement, j'avais la chance d'avoir une famille qui avait gardé les vieux livres. Donc, la Bible, vous savez, c'est rythmique, c'est quelque chose qui est dans l'ordre de la culture, alors qu'on peut dire culture, de la pensée mondialisante d'aujourd'hui, quelque chose d'absolument nécessaire. Et je ne passe je passe tous les jours. Vraiment, j'ouvre la Bible et je vois très bien en quoi ça peut m'inspirer. La Bible, attention, pas seulement la Torah, mais je prends aussi, figurez-vous, les évangiles qui sont tellement méconnus. Je vérifie tous les jours qu'on dit la Bible, mais que personne ne sait de quoi il s'agit dans la Bible. Voilà. Donc, c'est la même chose pour le corpus général de la littérature, de la poésie. Je passe mes journées à vérifier que personne ne sait vraiment qui est Dante, qui est Shakespeare, qui est Rimbaud, qui est Baudelaire, qui est Claudel, qui s'est beaucoup intéressé à la Bible, enfin, un monument de commentaires, malheureusement un peu ensablé en latin. Bref, je crois qu'on est dans cette période de mutation où un tel travail de convergence est possible. Qu'il n'y ait personne ou pratiquement personne pour s'y intéresser et que tout reste effondré, scolaire mal fait, université décadente et tout, je m'en fous. C'est quelque chose qui m'habite depuis l'enfance et je continue là-dessus.
Vous dites catholique, Philippe Solers, et j'ai envie de vous répondre comme le disait Baudelaire, personne n'est plus catholique que le diable.
Personne n'est plus catholique que le diable, a dit Baudelaire, lequel est un poète, vous savez, qui est le plus grand poète français. Comment se fait-il, d'après vous, que ce poète des Fleurs du Mal, qui a été condamné, etc., soit si méconnu ? Ce qui est extraordinaire. Tout le monde dira Baudelaire, mais bien sûr Baudelaire. Vérifiez. Juste un exemple. Baudelaire a écrit les plus beaux vers des Fleurs du Mal à partir de sa liaison érotique avec Jeanne Duval, qui est une métisse créole. Il a pris le goût des créoles très tôt. Cette femme admirable. Mais enfin, les vers de Baudelaire, c'est pour ça que ça a indigné la France du 19e siècle. Le procureur Pinard a requis contre le fait qu'un très grand poète, très, très mal vu, avait cette liaison torride. Savez-vous qu'il n'existe rien sur Jeanne Duval dans la littérature française, que les féministes ne se sont jamais intéressés à Jeanne Duval, que je vais publier bientôt un livre étonnant qui va révéler la liaison entre Jeanne Duval et Baudelaire. Voilà de quoi notre pays est fait, de ce genre de refoulement, de blocage. Donc là, c'était particulièrement intéressant. Comment est-ce qu'un grand poète français, Charles Baudelaire, condamné au 19e siècle, les fleurs du mal, c'est Jeanne Duval, admirable personnage, peinte par Manet. Vous comprenez ? C'est ça qui veut vivre. C'est la vérité sur ces refoulements invraisemblables. Jeanne Duval, vous connaissez Jeanne Duval ? Oui.
Les bijoux.
Mais oui, voilà. Alors Jeanne Duval, vous savez, à mon avis, c'est un personnage à qui on doit les plus beaux vers érotiques de la littérature française.
Alors le fait de vous dire catholique...
Oui, catholique, je vous signale tout de suite l'étymologie. Vous savez ce que ça veut dire, en grec. Ça veut dire universel. Voilà. Donc, je suis universel.
D'accord. Donc, ce n'est pas contradictoire avec votre goût pour les Lumières. Ce siècle où l'on devait douter
lumières,
de tout.
Mais sans le catholicisme, il n'y aurait jamais eu les Lumières. Vous savez bien que Voltaire, Sade ont été des élèves des jésuites. Vous comprenez, il faut toute la falsification de l'histoire lourde, agressive, fanatique, idéologique, pour ignorer à ce point les faits. Molière, Sade, voilà. Ce sont des gens qui ont appris à lire et à vivre parce qu'il y avait un enseignement supérieur. Regardez, faites la comparaison avec aujourd'hui, si vous voulez. Bon, le 18e siècle, par exemple, dont je m'occupe beaucoup, c'est les Lumières, c'est le fruit même de l'éducation jésuite ou catholique. À partir de là, qu'il y ait eu des histoires, il faut dépasser ça, on ne va pas rester toujours. Ça, c'est la propagande du 19e, lourde, pénible, vous savez. La France est un pays épouvantable, où se continue une guerre civile idiote. La droite, la gauche, ceci, cela. C'est que c'est vieux, que c'est poussiéreux, que c'est malade, que c'est moisi, comme je l'ai dit
un jour. Un jour célèbre. Mais vous pensez, Philippe Solers, que justement, les Lumières aujourd'hui dans notre pays sont, mais regardez, ont échoué.
Mais, regardez, mais pas du tout. C'est les Français qui échouent par rapport à leur lumière. Ils ont honte. Ils sont coupables, les Français. Reprenez-les comme ils sont, partout. Ils sont dans une espèce de culpabilité. Ils n'osent pas. Voilà. Ou alors ils se laissent faire. Ils se laissent carrément prédationner. Hein. Enfin, ils se laissent exploiter. Ils réagissent pas vraiment. Hein. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent coupables, ils se sentent punis par leurs erreurs. Ils méconnaissent, ils ont voulu méconnaître leur grand personnage du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, je vais les reciter si vous voulez, c'est Montesquieu, c'est Voltaire. Ils sont incapables d'avoir l'énergie spirituelle, l'énergie tout court, de combattre. Par rapport à ça, ils ont abandonné la partie. Ils abandonnent leur grandeur. Leur grandeur est infernale. L'Europe, c'était les Lumières françaises. Où en sont les Français par rapport à sa petite nation rabougrie qui accepte n'importe quel nouveau venu, qui est avec le trafic financier du ça. Et puis voilà, c'est honteux, l'infâme. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut le désigner. Ce n'est pas la vieille église catholique un peu ramaraplapla des 18e. L'infâme, nous l'avons sous les yeux tous les jours.
Alors, exhumons, puisque nous avions commencé par ça, creusons comme les paysans égyptiens avec notre petite pelle et exhumons au hasard un beau livre, justement, dont le nom s'impose, Les Mémoires d'Outre-Tombe. C'était Marc Fumaroli, à qui vous avez consacré une fort belle critique, qui exprime toute son admiration pour Chateaubriand.
Il est dans un autre monde, mais ce monde, qui n'est pas de celui-ci, lui permet de voir avec une lucidité, une cruauté, une ironie, une férocité, mais en même temps un désespoir profond, comment les hommes vivent, ce qu'est véritablement l'histoire, ce qu'est véritablement la politique. Et au fond, lorsqu'on lit les Mémoires d'Outre-Tombe, il y a quelque chose de déchirant, parce que c'est à la fois passionnant et désespérant, parce que c'est un peu comme toutes nos actualités, si j'ose dire. C'est que toute ambition politique ne peut être que ratée. Il n'y en a pas de... Regardez Napoléon, quel échec terrifiant. Charles X, regardez Louis-Philippe. En fait, il n'y a pas de... Et c'est ça la force du poète, c'est qu'il est capable de dire ce qu'aucun homme politique, naturellement, ne reconnaîtra jamais, que même l'homme politique qui, dans l'instant, semble triompher, aura un jour l'amertume de constater qu'il n'a rien laissé derrière lui.
Alors, donc, Fumaroli, lui, est réactionnaire, mais vous dites que Chateaubriand ne l'était pas.
Pas du tout. Chateaubriand est d'abord un très, très grand écrivain. Quelles que soient apparemment ses opinions, ses dérapages, ne peut pas être réactionnaire. Monsieur Fumaroli a son talent, il a écrit un livre, et c'est un homme d'érudition, mais ce n'est pas un écrivain. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris des risques personnels avec une œuvre à faire, poétique ou dans l'histoire. Donc, c'est un professeur. Nous savons qu'aujourd'hui, ce qui reste de professeur peut être d'ailleurs intéressant. Pourquoi pas ? Mais enfin, ce n'est pas le point de vue qu'il faut sur l'histoire. Ce n'est pas le point de vue qu'il faut sur l'histoire. Le point de vue des professeurs n'est pas le point de vue qu'il faut sur l'histoire. Et même le point de vue des historiens n'est pas le point de vue qu'il faut sur l'histoire. Le point de vue sur l'histoire, le vraiment impliqué, fondamental, créatrice, c'est celle forcément des écrivains. Et d'ailleurs, il vaut mieux être Chateaubriand, Balzac, Baudelaire, Rimbaud, pour comprendre l'histoire de ce pays, que tous les académiciens réunis. Bon. Alors, à partir de là, Chateaubriand, vous comprenez, il avait affaire à quelque chose, c'est-à-dire la dictature de Napoléon. Est-ce que vous croyez que Napoléon a été un bienfait pour la France ? Sa question peut se discuter. La Révolution française, la terreur, Napoléon, bah, ça peut... Pourquoi est-ce que ça ne se discuterait pas ? Parce qu'il y a une doxa qu'on fait comme ça, l'histoire dans un sens. Mais non, pourquoi ? Regardez Stendhal. Stendhal n'aimait pas Chateaubriand, voilà. Bien. Mais Stendhal, il est à Moscou avec l'armée française. Oh, si je vous vais vous raconter, mais c'est passionnant, la vie des écrivains est passionnante, leur corps est passionnant. Si je vous raconte comment Stendhal, parce qu'il n'a pas raconté lui-même, je pourrais inventer, comment il a fait pendant un mois et demi la retraite de Russie, comment il a marché dans la neige au milieu des Cosaques et des cadavres, comme ça, de Smolensk à Königsberg. J'apprends à mes auditeurs quelque chose. Lisez Stendhal, lisez Chateaubriand et ayez de la révérence et de la courtoisie pour Monsieur Fumaroli. C'est tout.
Voilà, ode aux écrivains et maintenant évidemment ode à l'écriture, signé Flaubert.
À George Sand, Paris, après le 12 mars 1876. Vous m'attristez un peu, cher maître, en m'attribuant des opinions esthétiques qui ne sont pas les miennes. Je crois que l'arrondissement de la phrase n'est rien, mais que bien écrire est tout. Parce que bien écrire, c'est à la fois bien sentir, bien penser et bien dire, Buffon. Le dernier terme est donc dépendant des deux autres, puisqu'il faut sentir fortement afin de penser et penser pour exprimer. Tous les bourgeois peuvent avoir beaucoup de cœur et de délicatesse, être pleins des meilleurs sentiments et des plus grandes vertus, sans devenir pour cela des artistes. Enfin, je crois à la forme et le fond, deux subtilités, deux entités qui n'existent jamais l'une sans l'autre. Ce souci de la beauté extérieure que vous me reprochez est pour moi une méthode. Quand je découvre une mauvaise assonance ou une répétition dans une de mes phrases, je suis sûr que je patauge dans le faux. À force de chercher, je trouve l'expression juste, qui est la seule et qui est en même temps l'harmonieuse. Le mot ne manque jamais quand on possède l'idée.
Prenez la rage de Flaubert.
Voilà, Philippe Solers n'est pas content.
Non, c'est pas ça. Prenez la rage de Flaubert dans Discours parfait. Passez-moi mon livre.
Allez,
je vais vous dire ce que c'est que le vrai Flaubert. Voilà, parce que Flaubert, c'est un énergumène, vous savez, c'est quelqu'un qu'il faut lire.
Oui,
il faut lire avec une.
Et il faut lire les livres de Pierre-Marc de Biasi, qui en parle formidablement.
J'ai un texte de moi que je recommande à tout
Alors,
le monde.
Alors, lisez-nous du Philippe Solers.
Qui s'appelle La rage de Flaubert. Vous voyez, c'est parce que Flaubert, c'est pas du tout ce qu'on dit, on l'a endormi, bien sûr, on anesthésie tout.
Non.
Mais enfin.
Allez-y.
Mais enfin, vous savez. Flaubert a découvert quelque chose d'extraordinaire. Et il s'est battu. C'est la bêtise. Eh bien, voilà une émission qui va me permettre de dire que la bêtise est très, 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 très répandue. N'est-ce pas? C'est la découverte fondamentale de Flaubert. Et Sartre a eu tort de l'appeler l'idiot de la famille, de faire... Non, la bêtise. La bêtise, voilà ce qu'en dit Flaubert. Je dis, moi, de ce point de vue, Flaubert, c'est Copernic, Galilée, Newton. Avant lui, on ne savait pas que la bêtise gouvernait le monde. Et je le cite, « Je connais, c'est Flaubert qui parle, et il parle avec cette voix-là, je suppose, je l'énerve un peu pour dire qu'il était vraiment furibard, furieux. Je connais la bêtise, je l'étudie, c'est là l'ennemi. » Et même, il n'y a pas d'autre ennemi. Je m'acharne dessus, dans la mesure de mes moyens. L'ouvrage que je fais pourrait avoir comme sous-titre « Encyclopédie de la bêtise humaine ». Vous comprenez ? Et autre chose, je vous lis une de ses lettres, si vous voulez, puisque...
J'adore les lettres de Flaubert,
Moi aussi,
allez-y.
Mais il faut les lire d'une certaine façon, c'est-à-dire non, avec la rage qui les habite, la conviction aussi. Voyez, écoutez, j'ai passé 2 mois et demi absolument seul, pareil à l'ours des cavernes, et en somme parfaitement bien, puisque, ne voyant personne, je n'entendais pas dire de bêtises. L'insupportabilité de la sottise humaine est devenue chez moi une maladie. Et le mot est faible. Presque tous les humains ont le don de m'exaspérer, souligne. Presque tous les humains ont le don de m'exaspérer, c'est ça Flaubert, vous comprenez? Et je ne respire librement que dans le désert. Alors, que dirait Flaubert aujourd'hui? Voilà une autre de ses prophéties. Écoutez, c'est pleinement réalisé aujourd'hui. Écoutez bien. L'importance qu'on donne aux organes urogénitaux m'étonne de plus en plus. C'est drôle, non? Vous voyez comme c'est prophétique. Hein. Alors, je conclue. Allons, bon, le sexe lui-même est en train de devenir bête. Eh bien, nous y sommes. Transition.
En tout cas, il faut lire, notamment la correspondance de Flaubert et celle avec Georges Sand.
Mais il faut la ranimer, surtout.
Particulièrement brillante sur l'écriture.
Oui. Ah, puis en la plus, pauvre vous Georges
qui...
Sand, oui.
Ben oui, mais vous qui écrivez, quand il parle du style avec elle, j'imagine que ça vous intéresse aussi, non?
Oui. C'est pas la bonne correspondante, vous savez, Georges Sand, comme disait Baudelaire, que vous avez raison de citer tout à l'heure, oui, Georges Sand a de bonnes raisons de vouloir supprimer l'enfer. Oui. Non, la barbe avec Georges Sand.
Bon. Et oui, bon. Oui, Baudelaire n'aimait pas Georges Sand. Bon, non. Mais en tout cas, dans votre livre Discours parfait, Philippe Solers, il y a quelque chose qui peut-être a surpris certains lecteurs ou lectrices, c'est votre hommage à Simone de Beauvoir, parce que... Oui. Voilà, et vous avez des phrases très intéressantes à son propos. Vous dites « Sa prose est l'une des plus intéressantes et sa voix était une protestation contre ce que disait son corps. »
J'aime Simone de Beauvoir pour les raisons suivantes. Quand j'ai publié « Femme », un livre qui date d'il y a 25-26 ans, j'ai écrit d'ailleurs à l'époque que une des raisons d'écrire ce livre, c'était non seulement le deuxième sexe, non seulement... toute l'enquête profonde que Simone de Beauvoir qu'elle a faite en 49. Bon, et donc j'avais en tête toujours Les Mandarins, qui est un de ses plus grands livres, hein, qui est pas assez lu parce qu'elle est devenue encore une fois simplifiée, rabotée, concentrée de façon absurde. Elle est devenue une sorte d'idéologue du féminisme, etc. Alors que c'est quelqu'un d'extraordinairement complexe, intéressant et qu'il faut découvrir, notamment dans ses lettres et notamment dans ce chef-d'œuvre que sont les lettres à Nelson Algren, qui ont été publiées récemment. C'est prodigieux. C'est une épistolière de génie. Donc elle m'intéresse parce qu'elle écrit très bien, notamment des lettres. Et puis et puis j'ai appris ensuite qu'à la fin de sa vie à l'hôpital, elle lisait mon livre Femme, qu'elle trouvait extraordinairement intéressant. C'est quand même un hommage. Simone de Beauvoir a terminé son existence en lisant ce gros roman que vous pouvez rouvrir, qui est très intéressant sur la question de savoir où en sont les sexes l'un par rapport à l'autre, ce qui quand même en ce moment est tout à fait vraiment avachi. Il faudrait ranimer un peu tout ça. Tout le monde est Anastasia. Vous voyez Elisabeth Badinter et ses déceptions par rapport à ce qui est en train de se passer dans la région. Donc, Beauvoir, c'était quelqu'un de tout à fait intéressant. Et c'est vrai que sa voix n'était pas raccord avec son activité d'écriture et sa vie et son corps. Elle était plutôt très belle. Et sa voix, elle avait une voix un peu comme ça. Donc ça m'intéresse. Les voix m'intéressent parce que je m'intéresse à la musique, parce que j'écoute la musique de façon intense. Et que, par exemple, que si vous me mettez Cécilia Bartoli, je vais
dans
vous
un
dire...
instant.
Ah, oh, merci, dans merci. Quelle joie.
Petite seconde. Vite. Allez, avant Simone de Beauvoir quand même. Allez, Simone de Beauvoir. Un peu, oui, bientôt. Sûrement.
Je pense qu'il était le plus sale, le plus mal habillé. Je crois aussi peut-être le plus laid. Mais je me rappelle l'avoir vu une fois avec un grand chapeau dans les couloirs de la Sorbonne, faisant la cour à je ne sais pas quelle étudiante, parce qu'il était toujours en train de faire la cour à tel ou tel jeune philosophe. Ça, c'était mademoiselle, je ne sais plus comment elle s'appelait. Enfin, et il avait un grand chapeau, il était en train de faire du charme et j'avais ricané. Ceci dit, quand je l'ai connu, ça a été très différent. Dès que je suis entrée dans la tourne de la cité universitaire, alors, j'ai vu quelqu'un qui était au contraire extrêmement gentil avec tout le monde, très généreux, qui faisait des tas d'explications sans erreur sur aucun bénéfice, et qui était très amusant, très drôle, qui chantait des tas de chansons d'Offenbach et autres. Enfin, c'était tout à fait un autre personnage que celui que voyaient les Sorbonnards.
Simone de Beauvoir qui parlait de Jean-Paul Sartre dans le film de Michel Conta, formidable, de 1976.
C'est un formidable personnage. J'ai toujours beaucoup aimé Sartre et Beauvoir, leur histoire, leurs lettres, leur vie. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant que la plupart des intellectuels d'aujourd'hui, qui ont pris des risques, qui se sont trompés, surtout Sartre. Elle, non. Franchement, ces lettres à Nelson Algren sont absolument extraordinaires. Elles ont été traduites par Sylvie Le Bon de Beauvoir. Il y a un talent extraordinairement bizarre de Beauvoir, notant au jour le jour ce qu'elle fait. Elle a été contemporaine d'elle-même d'une façon tout à fait étonnante. Quant à la voix, on sent quelque chose qui pèse, alors qu'il est ancien, qui tient à la scolarité, enfin au discours un peu d'enseignante, de professeur, de militante ensuite, parce que ça s'aggrave avec le temps. Mais c'est un très très grand personnage, à mon avis, de la liberté humaine.
Et la cérémonie des adieux, c'est un grand livre.
Oui, là, c'est bouleversant et en même temps, on sent comme une sorte de ressentiment par rapport à Sartre. Enfin, c'est compliqué. Leur vie a été très compliquée et en même temps prodigieuse parce qu'ils se lisent l'un l'autre, ils se critiquent. Les enregistrements où elle est avec Sartre sont invraisemblables parce qu'on sent très bien qu'il y a une hostilité, enfin une agressivité, un amour, une agressivité considérable. Bon, ça c'est, vous savez, ça, c'est Beauvoir dire mais non, je me rappelle un enregistrement que j'ai d'une de leurs conversations à Rome. Alors, laissez-moi boire, dit ça. Sartre avec moi, laissez-moi boire ce petit verre qui m'a été, le vin blanc qui m'a été si gentiment offert. Non, Sartre, vous savez que vous ne pouvez pas boire. Moi, j'ai connu Sartre. Écoutez, j'allais l'entendre me parler de Flaubert, genou contre genou, avant d'aller manifester dans les rues. Autrefois. C'était prodigieux parce qu'à un moment, il se lève et il commence à fumer clope sur clope. Vous savez, les maïs.
Oui, les maïs, les gitanes maïs.
Et je lui dis, mais Sartre, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il fumait. Qu'est-ce qu'il vous prend ? Il me dit, mais attendez, le castor va revenir. Alors, tous ces hommes vivaient, enfin c'est quand même problématique, tous ces hommes ont vécu quand même en cachette, ou plus ou moins clandestinement, de la surveillance féminine. La surveillance féminine par rapport aux hommes est quelque chose dont on ne parle jamais. Eh bien, j'en ai parlé.
Voilà, ça mérite Cécilia Bartoli.
Quest'oggetto non sia più pena alle mie luci. O amore, anima tu il mio cuore, tal che in vendetta del tradito eroe possa animare mille guerrieri e mille. Ballerò sulla senna sovrema sul reno, animando battaglia vendetta, ogni che vuole che vanti valor. Ballerò, ballerò, ballerò sulla senna sovrema sul reno, ballerò, 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 vendetta, battaglia, vendetta, vendetta, griderò, animando battaglia vendetta, vendetta, ogni che vuole che vanti valor. Animando battaglia vendetta, ogni che cuore che vanti valor. Che mi serpi nel seno, scaglia per la fatale sapienza, a finire il mio acerbo dolore. E più vuole che mi serpi nel seno, scaglia per la fatale saetta, a finire il mio acerbo dolore. Animando battaglia vendetta, ogni cuore che fanti valor. Animando battaglia vendetta, ogni cuore
content, Philippe Solers?
Mais oui, parce qu'on vient d'écouter quelqu'un de génie. Et là, il y a, vous avez vu la finesse, l'énergie, enfin, il y a toutes les qualités réunies dans cette voix qui était extraordinairement impressionnante parce qu'elle a réveillé toute une musique qui n'était enfouie. Là aussi, nous sommes dans une sorte de résurrection avec le corps qu'elle a et l'art qu'elle a. C'est une femme de génie, c'est une amie que j'adore.
Oui, puis elle a ce registre étendu, c'est-à-dire qu'elle peut passer dans des aigus aux graves.
Vous voyez, ce qui est impressionnant dans son cas, c'est qu'aucune chanteuse, musicienne, autre qu'italienne, ne pourrait restituer la force de l'italien, notamment dans les R finaux. Et donc, c'est bien, il y a des chanteuses, il y a des musiciennes qui peuvent chanter en italien. Mais là, la langue italienne est prise vraiment dans son fondement même physique, physiologique. Il faut la voir sur scène, je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle est extraordinaire, elle est comme une musicienne de jazz qui entraîne son orchestre. Et tout vit en elle, c'est-à-dire que tout est dans la voix. Son corps sort de sa voix. Elle peut avoir, en effet, et c'est un travail, c'est la gorge, c'est le souffle, ce sont les cuisses aussi, les bras, etc. Tout s'envole. Alors elle est un peu ronde, mais à ce moment-là, vous avez une légèreté considérable, ce qui prouve que l'art transforme le corps et lui donne une autre dimension. Oh oui, c'est un génie, Bartoli. Il faut que vous procuriez l'album Sacrificium qu'elle vient de sortir.
C'est fait. C'est fait. Ne vous inquiétez pas.
Non, c'est beau, les femmes de génie. J'adore ça.
Donc, ce soir, nous avions essayé d'avoir la voix de Cécilia Bartoli dans le reportage pour vous, mais elle a été prise par des tas d'engagements. Donc, Martine Abad qui nous a rejoint.
Une autre femme de génie. Voilà. Je suis allée rencontrer.
Voilà. On peut le dire. Une autre chanteuse qu'on aime beaucoup aussi.
C'est Nathalie Dessay. On peut l'écouter en ce moment à l'Opéra Bastille, dans l'opéra de Bellini, La Somnambule. Et puis, si on ne peut pas aller à l'opéra, il y a un enregistrement de La Somnambule par Dessay, toujours chez Virgin Classics. Alors, le livret de La Somnambule n'a, il faut l'avouer, pas grand intérêt. C'est une historiette d'amour assez idiote même, on peut dire. Mais la musique de Bellini nous donne des moments sublimes. Et le metteur en scène, Marelli, a transposé l'histoire censée se passer dans un paisible village des Alpes suisses. Eh bien, il l'a transposée dans un sanatorium, ce qui donne à la mise en scène une inquiétude un peu malsaine. Alors j'ai rencontré Nathalie Dessay en fin d'après-midi dans sa loge de l'Opéra Bastille au moment où la peur commence à l'envahir et où elle a surtout envie d'être ailleurs. Pourtant elle donne à son Amina, la somnambule qu'elle interprète, un relief et un éclat émouvant.
Jamais envie de chanter. Autant je suis contente d'aller en répétition, je suis parfois contente de découvrir une partition, de commencer à l'apprendre, même si c'est très long et très fastidieux pour moi, mais j'aime bien ces moments. En revanche, les moments où il faut aller au théâtre, c'est toujours un peu difficile pour moi, parce qu'il faut aller prouver, en fait. Et moi, j'allais dire, j'ai passé l'âge. Mais bon, je suis obligée, hein. C'est comme ça que je gagne ma vie, en fait.
Mais le plaisir, il vient à un moment.
C'est mélangé. Mais disons que moi, je suis toujours contente quand c'est fini. Parce que c'est fini, c'est derrière moi, hop, ça y est, une de moins. Ou une de plus, je sais pas ce qu'il faut dire.
Mais par exemple, quand je suis venue, là, cette semaine, je pense que vous le sentez, enfin, il y a une tension à certains moments, il y a une attention des spectateurs. Ça, vous le ressentez ?
Oui, ça, je le ressens. Et surtout dans un opéra comme celui-là, La Somnambule, et cette musique de Bellini, parce que c'est une musique extrêmement délicate. Donc, je le ressens d'autant plus dans cette grande salle de la Bastille, qui, à mon avis, n'est pas faite pour cette musique-là, encore moins que pour d'autres. Parce que nous, on continue à faire des choses très raffinées. Et donc, j'imagine que l'auditeur est vraiment obligé de dresser l'oreille, quoi. Parce que c'est... cet opéra-là et ce genre d'opéra, c'est fait pour des toutes petites salles, quoi, pour une espèce d'intimité qu'on essaye de recréer comme ça, mais qu'on ne peut pas vraiment recréer pour 2700 personnes. Moi, je ne suis pas dans la salle quand je chante, donc j'aimerais bien d'ailleurs parfois, parce que j'aimerais bien savoir comment doser les choses, comment colorer les choses, ça m'aiderait beaucoup en fait. Puis il faut dire aussi que dans cet opéra, il y a quand même un des plus beaux airs jamais écrits pour la voix humaine, qui est ce A non crede a mirarti, cet air lent, qui est un air de somnambulisme et en même temps de révélation de la souffrance et de la peine, avec une mélodie magnifique, un accompagnement extrêmement simple. Mais c'est de cette simplicité que naît la magie de cette musique. Plus qu'une folie, c'est un état second. C'est une sorte de maladie, plutôt. J'essaye de me mettre dans une espèce de transe. J'essaye d'imaginer d'abord ce que ça pourrait être. Moi, je ne suis pas somnambule et je n'ai jamais vu de somnambule. Mais on m'a raconté des scènes de somnambulisme absolument étonnantes, de gens qui se lèvent et qui accomplissent des gestes quotidiens comme s'ils étaient éveillés. Et c'est simplement leur regard et leur temps de réaction qui est un peu différent de leur vraie personnalité, enfin de leur personnalité éveillée, on va dire. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est à quel point l'inconscient finalement nous mène parfois loin de ce qu'on est et peut-être nous révèle aussi différent de ce qu'on est. Elle est censée être la fille la plus sage, la plus jolie, la plus ceci, une fille de conte de fées. Une enfant très innocente, très naïve, très amoureuse de son Elvino et justement très blessée de cette jalousie qui lui témoigne. Et en fait, elle se révèle être un être de chair et de sang qui a envie d'autre chose que d'un amour comme ça de conte de fées.
Qui a envie d'une étreinte.
Qui a envie, voilà, d'un baiser, d'une étreinte, voire plus si affinité. Ben, on se rend compte de son côté humain, moi je trouve, de son côté charnel, sensuel, qui n'est pas vraiment indiqué ni dans la musique, ni dans le livret, et qui se révèle, enfin dans cette production en tout cas, au détour de ces scènes de somnambulisme.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette Amina va être presque compromise par son somnambulisme. Oui. On va la retrouver couchée dans une chambre.
Voilà, théoriquement, on la retrouve couchée dans une chambre qui n'est pas la sienne et qui est celle d'un monsieur qui vient d'arriver dans le village. Alors évidemment, sans chercher plus loin, les gens la condamnent tout de suite.
Qu'est-ce que vous allez garder de ce rôle d'Amina ?
La beauté élégiaque de ce personnage et de cette musique. En fait, moi, j'ai découvert avec la somnambule que, contrairement à ce que je croyais, j'étais plutôt une chanteuse élégiaque. Alors que mon répertoire, en tout cas celui des débuts, me poussait à beaucoup plus de virtuosité, de pyrotechnie, on va dire.
Des choses plus sanguines.
Non, et puis des choses très 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 brillantes, des feux d'artifice sans arrêt. Et en fait, je suis un peu comme Amina, je me révèle dans les choses qui sont plus intimes.
Donc ça veut dire qu'un rôle, il se sédimente en vous, ça laisse des choses et puis peut-être qu'ils vous serviront pour un autre.
Ah oui, sûrement. Somnambule m'a aidé pour... ça a été ma découverte du bel canto, le premier opéra bel canto que j'ai chanté. Donc ça m'aidera certainement pour Puritani, ça m'a aidé pour Donizetti, pour Lucia, ça m'aidera aussi pour Don Pasquale, l'Hélicière d'amour. Et voilà, tous les opéras italiens que je chanterai par la suite.
Nathalie Dessay, qu'on peut écouter à l'Opéra Bastille jusqu'au 23 février. Et donc, La Somnambule est aussi éditée en CD chez Virgin Classics.
Voilà, Philippe Solers, vous avez failli partir, puis finalement, vous êtes resté parce que vous avez envie de dire tout le mal que vous pensez.
Non, pas du tout. J'ai failli partir parce que j'étais trop profondément bouleversé. Oui, parce que oui. je ne peux pas écouter cette musique sans que ça me mette vraiment en danger. Et je sens monter en moi une sorte d'océan sentimental, enfin qui est contraire à ma nature. Et donc je me sens envahi, vraiment. C'est comme Callas, vous comprenez. On ne peut pas résister à ce genre de proposition. Et Bellini et tout l'opéra italien, nous sommes dans le 19e siècle.
Vous
vraiment,
détestez ça,
à travers les âges, oui. Le 19e oui. siècle est plus fort que nous. Là, plus fort que moi. Visiblement, je suis renversé et j'éprouve des émotions que... Non, vraiment, excusez-moi. Non, mais tout ça est très bien, mais sauf qu'il faut insister peut-être, sur cette culture qui continue du 19e siècle et qui, moi, me paraît pas vraiment synchrone avec l'époque que nous vivons, sauf erreur. Nous sommes au début du 21e et nous écoutons tout cela avec une nostalgie impérieuse qui m'a saisi, vraiment. Voyez-vous, je crois que c'est tout ça, c'est vraiment une guerre du goût, comme j'ai dit autrefois. Hein, vraiment, il y a des goûts et les goûts doivent s'entrechoquer, doivent se contester violemment. Là, je suis minoritaire, tout à fait. Est tellement minoritaire que ça m'enchante, parce que, après tout, j'ai pas envie de devenir majoritaire. Majoritaire, ça me déplairait beaucoup.
Donc on ne peut pas aimer Vivaldi, Cecilia Bartoli et non, Bellini, Nathalie Dessay.
On
ne
peut pas
Dessay.
Aimer Jean-Sébastien Bach, comme je fais ma prière avec lui tous les matins, avec Glenn Gould, par exemple. C'est-à-dire, vraiment, dans le fond des choses, du rythme, de la musique vraie, de la musique divine, alors pour le coup, et aimer ça. C'est pas possible.
Jusqu'à ce soir, je ne m'étais pas rendu compte à quel point je vivais dans la contradiction. Donc.
Ah, peut-être. Ouais, mais alors, ouais. Vous croyez vraiment
que oui, parce que j'aime.
Vous y arrivez.
J'aime Bach et j'aime.
Vous aimez Bach vraiment.
Oui. Et j'aime les puritains.
Vous êtes sûr, vous êtes sûr.
Non, mais je vais vous faire de la peine. Mais je déteste Bach, oui. Ouais. Au fond, je déteste Bach et je me l'écoute simplement parce que c'est la mode.
Non, ça doit Bach, être c'est ça. C'est pas la mode, c'est pas la mode.
Si, parce qu'on m'oblige à le faire, je pense.
Non, vous savez, il y a un entretien très 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 étonnant de Glenn Gould avec Yehudi Menuhin. Ils viennent de jouer ensemble une sonate de Brahms. Il n'aime pas ça, Gould, ça se sent tout de suite. Il n'aime pas ça, mais il le joue. Et donc après, il y a un dialogue entre eux. Yehudi Menuhin reproche à Glenn Gould, l'énorme, l'immense Glenn Gould, lui reproche de ne plus faire de concerts, de ne plus se produire en spectacle. Et en effet, on sait que Gould s'est retiré uniquement pour faire des enregistrements. Il n'a pas voulu, c'est comme Martha Argerich, autre génie féminin pour moi. Et au fond, c'est ça le fond du problème dont nous pourrions parler longuement. C'est-à-dire, Menuhin lui dit, mais comment plus de spectacle ? Spectacle, ça veut dire 19e. 19e, le violoniste, le pianiste, la salle de concert, être ensemble et avoir des émotions ensemble. Et Gould lui répond, mais écoutez, cher Menuhin, vous ne comprenez pas du tout la question. La question, c'est maintenant, c'est plus du tout ça. C'est que je peux, dans un enregistrement précis, changer 1/100 de seconde avec ce que je viens de faire. Et donc, travailler à une répétition la plus exacte, la plus précise, la plus émouvante possible d'un enregistrement. C'est-à-dire qu'on change à ce moment-là complètement d'époque. On n'est plus au 19e, on ne donne plus des concerts, etc. Avec le vieil opéra du 19e, qui vaut ce qui vaut, mais enfin Mozart c'est mieux. Et donc, voilà, on Dessay était très bonne, peut-être, elle a fait un effort dans la Reine de la Nuit, par exemple, de Mozart. Mais enfin, vous imaginez bien que c'est pas la même musique que Bellini, tout ça est tombé de 10 étages. Donc, l'enregistrement de Gould, Vous pouvez, alors, écoutez, vous les avez sûrement, vous aimez Bach, donc vous les écoutez sans arrêt, comme moi. C'est-à-dire le clavier bien tempéré, les variations Goldberg, les toccatas.
Les mêmes que vous.
Et oui. Alors, donc, merci, parce que là, nous sommes dans tout à fait autre chose. C'est-à-dire la mathématique divine de la musique. C'est-à-dire quelque chose qui dépasse le sentiment vaguement amoureux d'une Madame Bovary un peu décomposée chez Bellini.
Voilà, et bien c'était donc Philippe Solers dans ses pompes et ses œuvres, et la dernière s'appelle, voilà, elle est parue chez Gallimard, elle pèse très lourd, ça s'appelle Disco Parfait. Merci infiniment Philippe Solers, bon retour chez vous.